Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. On est le 22 mars, c'est vendredi, bientôt le week-end. Peut-être pour vous une dernière journée courage hein, si vous êtes déjà au boulot ou même si vous êtes en train de rentrer d'ailleurs du boulot, peut-être sur la fin de journée. On lance cette dernière journée de la semaine tous ensemble. On va passer ce dernier matin tous ensemble de la semaine. Charles Magnin, évidemment, est là. Vous inquiétez pas, vous le retrouverez à partir de 6h30. Géraldine Demory est là également. Salut Géraldine.
Salut Martin, bonjour à tous.
Comment ça va ce matin?
Écoute, ça fait plaisir de te retrouver.
Ben ouais, exactement. Exactement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble.
Et oui, ça fait au moins 10 jours.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Géraldine, on l'était tout à l'heure, mais t'as pas forcément que des bonnes nouvelles ce matin à nous apporter.
Il y en a. On va se concentrer sur la journée d'aujourd'hui, puis on parlera du week-end
voilà,
une autre fois.
Les mauvaises nouvelles un peu plus tard. Un peu plus tard, parce qu'on va parler d'une autre mauvaise nouvelle aussi ce matin. Ce sont les finances publiques qui sont dans le rouge.
Bah oui, c'est un chiffre que Bercy n'avait pas prévu. Le déficit public pourrait bien atteindre les 5,6% et ça inquiète le gouvernement qui est justement en pleine réflexion pour trouver des économies pour le réduire. Certains députés de la majorité évoquent la piste d'une augmentation des impôts, un tabou pour Emmanuel Macron depuis 2017. Au contraire, le chef de l'État a même promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôts à destination des classes moyennes.
À vous de nous dire, ce matin, vu le contexte économique, est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour réduire ce déficit? Est-ce que le tabou autour du principe zéro hausse d'impôts est encore tenable d'après vous? Est-ce que vous y croyez encore? Au contraire, est-ce que vous avez l'impression qu'on est tout doucement en train de vous préparer, de préparer un peu tout le monde à des augmentations d'impôts? Est-ce que vous pourriez les supporter, ces augmentations? Venez faire vos comptes avec nous ce matin. On vous attend notamment si vous êtes chef d'entreprise, puisque l'une des pistes c'est d'augmenter les impôts de reporter les baisses d'impôts promises sur les entreprises. On vous attend au 32-16 et sur l'application Direct Studio.
Oui, alors ça c'est pour notre débat du jour au 32-16. On aura aussi bien sûr tous nos rendez-vous habituels.
Et oui, comme tous les matins, Jordan Olivier sera là pour la Story Sport. Anthony Morel nous parlera de l'avenir et de la tech. Et puis on aura également ton bonus, Géraldine, évidemment. Ce matin aussi, double raison de rester attentif. D'abord parce qu'on va jouer avec l'actu, évidemment, comme tous les jours. On vous posera une question d'actualité juste après le journal de 5h. Et la deuxième raison, c'est le retour du coffre RMC. Géraldine, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 50 000 euros.
Ouais, 50 000 euros. Alors ce coffre, on va l'ouvrir tous ensemble. On va l'ouvrir vendredi prochain, le 29 mars. Mais vous allez déjà pouvoir vous inscrire dès aujourd'hui, dès que vous entendez ce signal. Ça, c'est l'alerte. Donc à partir de là, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Mais attention, vous pouvez la remettre en jeu, cette somme, en ouvrant donc le coffre RMC.
Ah oui, vous connaissez le principe, hein, si vous la remettez en jeu, cette somme, et que vous osez ouvrir le coffre, vous allez pouvoir repartir soit avec une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France, en séjour pour 6 personnes, soit vous repartez avec la somme de 50 000 euros. Et évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc vous envoyez le mot coffre par SMS, ouais, coffre par SMS au 732-16. Vous restez attentifs et vous restez attentifs aussi à la météo, parce que aujourd'hui, comme les autres jours, ça sert toujours d'écouter la météo de Géraldine Demory.
Et puis aujourd'hui, c'est encore une belle journée, même s'il faut attendre la dissipation de la grisaille matinale. Mais le soleil va quand même s'imposer sur la plupart des régions, sauf près de la Manche, Bretagne et côte de la Manche, là où ce sera un ciel gris et pluvieux. Et ça nous annonce un week-end un petit peu plus compliqué. En attendant, c'est toujours de la douceur pour aujourd'hui. 13 à Lille cet après-midi, mais 18 à Paris, 21 à Lyon, il fera 22 degrés à Marseille, 23 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 25 à Bordeaux. Et puis donc, ces températures qui vont dégringoler demain, puisqu'on perdra jusqu'à 10 degrés en l'espace de 24 heures.
La météo sur RMC avec Conto, le compte pro qui simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Romain Hoog. Bonjour Romain.
Bonjour Martin. Bonjour à tous. Ministre de la Culture, réalisateur, animateur de télévision, Frédéric Mitterrand est mort hier soir après un cancer. Emmanuel Macron salue un homme aux mille existences. 40 ans après la mort du petit Grégory, nouveau rebondissement dans l'affaire. La justice ordonne de nouvelles expertises ADN. Il voulait décrocher dès cette nuit son billet pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est raté. Blessé, Kevin Mayer est contraint d'abandonner lors du décathlon de San Diego.
On l'a appris hier soir, Romain, l'ancien ministre de la Culture et homme de télévision, Frédéric Mitterrand, est décédé hier. Il avait 76 ans. Et
il s'est éteint à son domicile parisien après des mois de lutte contre un cancer agressif, disent ses proches. Un homme aux mille existences pour Emmanuel Macron, un être à part, salue Nicolas Sarkozy. Mais Frédéric Mitterrand, Laurent Sègre, c'était d'abord cette voix inimitable.
Et son célèbre bonsoir sur un ton traînant et nasillard, il en plaisantait dans cette émission d'Ardisson.
Bonsoir, bonsoir, mais non, c'est vulgaire. Bonsoir, bonsoir, mais non, pas une petite voix de fossé, une voix un peu virile quand même. Oui.
Frédéric Mitterrand qui commence par parler cinéma sur le petit écran avec l'émission devenue culte Étoiles, étoiles. À l'époque, il dirige une petite chaîne de salles arts et essais.
Greta Garbo, telle la reine Christine de Suède, dont elle avait lu passionnément l'histoire à l'école communale à Stockholm, a déposé sa couronne.
Il lance plus tard le premier talk show culturel, Permission de minuit, puis toute une série de biographies de Brigitte Bardot à Elisabeth II, en passant par Kennedy. En 2009, après la mort de François Mitterrand, son neveu devient ministre de la Culture dans un gouvernement de droite. C'est aussi l'époque de la polémique sur son livre « La mauvaise vie ». Marine Le Pen l'accuse de tourisme sexuel sur des mineurs en Thaïlande. Le ministre, qui n'a jamais caché son homosexualité, dément et condamne publiquement la pédophilie. Frédéric Mitterrand laisse une bonne vingtaine de livres. Le dernier est une biographie de Brad Pitt, une vraie déclaration d'amour.
Le tabac, c'est comme l'alcool, c'est interdit aux mineurs. Et pourtant, il semblerait que se procurer des cigarettes lorsqu'on a moins de 18 ans, ce soit un jeu d'enfant. C'est en tout cas ce que nous dit cette étude du Comité national contre le tabagisme. 95% des mineurs fumeurs sont parvenus à acheter des cigarettes chez le buraliste ces 12 derniers mois. En France, c'est un peu moins d'un mineur sur 5 qui fume régulièrement. Reportage en région parisienne, Kevin Gasser.
Victor, 17 ans, fume 2 paquets par mois depuis la seconde et jamais il n'a eu de problème pour s'en procurer.
Peu importe quel tabac, il me fournira toujours en fait. Juste il me passe le paquet et il prend l'argent et c'est tout. Hein.
La manœuvre est tout aussi simple pour Maria, élève de terminale. Elle sait pourtant que les buralistes ont interdiction de vendre des cigarettes aux mineurs.
Même une personne qui va avoir vraiment la tête d'un enfant, ils vont pas poser de questions.
Eric tient un bureau de tabac à Paris en face d'un collège. Quand un jeune lui demande des cigarettes, la vérification d'identité est systématique, assure-t-il, avant de reconnaître que certains passent entre les mailles du filet.
Des fois, il y a des jeunes qui ont 17 ans, qui en paraissent 22, 23. Mais dans le flux, parfois, il peut arriver qu'il y a beaucoup de monde et puis un grand, on fait pas attention. Après, on se dit, ah mais mince, il était peut-être pas majeur.
D'après l'étude menée par le Comité national contre le tabagisme, 8 buralistes sur 10 n'ont même jamais refusé de vendre de tabac aux mineurs ces 12 derniers mois.
Nous, ce qu'on préconise notamment, c'est qu'il y ait un mécanisme de contrôle automatisé.
Emmanuelle Béguineau est la présidente de l'association.
Qui permettrait de contrôler l'âge du client et donc d'identifier si c'est un mineur.
Et parmi les sanctions demandées par l'association, des amendes pour les buralistes concernés et la suppression de leurs aides financières.
Alors, est-ce que les buralistes sont irresponsables? On posera la question tout à l'heure au patron de la Confédération des buralistes, Philippe Coy, sera l'invité d'RMC tout à l'heure à 6h10.
C'était il y a 40 ans, le 16 octobre 1984, était découvert le corps du petit Grégory dans la Vologne. Depuis, sa mort reste non élucidée et l'affaire ne cesse de connaître des rebondissements. Hier, à la demande des parents de Grégory, la cour d'appel de Dijon a ordonné de nouvelles expertises ADN pour tenter enfin de faire toute la lumière sur ce meurtre. Marion Dubreuil.
Oui, la justice va lancer une nouvelle série d'analyses et de comparaisons ADN avec les prélèvements effectués sur les cordelettes qui entouraient le corps de Grégory, son anorak et les courriers du corbeau. Des échantillons déjà comparés aux ADN des protagonistes du dossier qui seront donc comparés aux ADN des membres de la famille élargie et notamment le frère de Jean-Marie Villemain. Enfin, autre axe d'investigation, la justice s'engage aussi à réaliser une étude de faisabilité en biométrie vocale. L'objectif est d'utiliser les progrès de la science pour réanalyser des cassettes audio enregistrées par les époux Villemain pour tenter de définir l'identité vocale des corbeaux. Ce n'est pas acquis compte tenu de la qualité d'enregistrement. L'avocate historique des parents de Grégory a salué la détermination de la justice pour faire toute la vérité sur la mort du petit garçon de 4 ans.
Enquête ouverte par le parquet de Paris après les menaces d'attentat qui ont visé hier une cinquantaine de lycées franciliens. Les élèves ont reçu dans leur ENT, leur espace numérique de travail, un courrier menaçant d'une attaque terroriste contre leur établissement. Courrier parfois accompagné d'une vidéo de décapitation. Des menaces inadmissibles pour le Premier ministre Gabriel Attal qui s'exprimait hier à ce sujet à l'issue d'une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires.
Tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces et évidemment pour les punir le plus sévèrement. Je le dis ici puisque nous avons déjà connu ces derniers mois et singulièrement depuis la rentrée scolaire 2023-2024 des vagues de menaces à l'endroit d'établissements scolaires. Et je le rappelle ici à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons.
Le Premier ministre qui a par ailleurs annoncé un audit des ENT dans les établissements franciliens. C'est un moment que les salariés attendent avec impatience à la fin du mois. Je parle bien sûr du versement du salaire. Eh bien, ce mois-ci, il va sûrement falloir faire preuve de patience. Ça risque d'arriver en retard. La raison est assez simple. Le système Target 2 qui gère les virements SEPA entre les banques va fermer pendant le week-end de Pâques. Entre le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril, il faudra sûrement attendre le 2 avril pour recevoir son revenu sur son compte bancaire.
Il espérait décrocher cette nuit son ticket pour les JO de Paris.
Ouais, Kevin Mayer, figure de proue de l'athlétisme français, a été contraint de déclarer forfait lors du décathlon de San Diego cette nuit. Visiblement gêné à la jambe droite, il n'a pas réussi à franchir une barre lors du saut en hauteur. Aurélien Tiersin.
Kevin Mayer s'est encore blessé, cette fois juste avant le saut en longueur. Il est touché à la cuisse et a jeté l'éponge pendant la hauteur, quatrième épreuve de son décathlon. Un cauchemar pour le Français qui n'a pas fini une seule compétition depuis son titre mondial en juillet 2022. Son corps depuis craque en permanence. Abandon aux Mondiaux de Budapest à l'été 2023 pour un tendon d'Achille. Puis il a renoncé à concourir en Australie en décembre à cause de sa hanche. Et le voilà toujours à quai, sans billet pour Paris 2024. Le double champion du monde a jusqu'au 30 juin pour réussir les minima. Reste à savoir combien de temps sa blessure à la cuisse le tiendra éloigné des pistes. À 32 ans, Mayer a fait de Paris 2024 son dernier grand défi, lui qui n'a jamais été champion olympique.
Allez, 5h07 sur RMC, on part à Taïwan en cette fin de journal pour cette histoire à peine croyable d'un étudiant qui a littéralement plongé ses jambes dans un seau de glace carbonique pendant 10 heures. L'idée, c'était de subir des gelures si graves qu'une double amputation serait inévitable. Alors, pourquoi cette folie, je vous le demande? Eh bien, c'est l'un de ses amis, criblé par les dettes liées aux crypto-monnaies, qui le lui a suggéré pour frauder l'assurance. Ils espéraient toucher plus d'un million d'euros en expliquant que ces gelures étaient apparues lors d'une virée nocturne en scooter. Sauf que, forcément, personne n'y a cru.
Non.
Ni à l'hôpital, ni à l'assurance. Résultat, pain d'indemnisation, deux jambes en moins, et par-dessus le marché, tous deux ont été arrêtés pour fraude et complicité de blessures graves.
Je sais pas si pour rire ou en pleurer cette histoire.
On est un peu entre deux. Il y a des amis qu'il faut pas forcément écouter.
Oui, je pense qu'il a perdu aussi un ami dans l'histoire.
Oui.
En même temps, un ami m'a dit de me couper les deux jambes.
Oui, on n'est pas obligé de les écouter, les amis. Il y en a certains qui n'ont pas forcément tout le temps des bonnes idées. Merci beaucoup, Romain. On te retrouve à 5h30 pour un prochain journal. Tu reviens, t'as pas le choix. Maintenant, t'es obligé de revenir. 5h09 sur RMC, on parle ce matin ensemble de ce déficit public qui se creuse. 5,6% attendu pour l'année 2023. On aura les chiffres exacts en début de semaine, mais ça devrait être autour des 5,6%, bien plus que les prévisions du gouvernement. On vous demande ce matin, du coup, s'il faut augmenter les impôts pour faire face à ce déficit. Et ça fait déjà réagir sur Direct Studio, Géraldine.
Oui, je peux te dire que la réponse est non, globalement.
Bizarrement.
Michel qui nous dit, les gens sont à sec, les artisans pressés comme des citrons par les charges. Comment voulez-vous augmenter les impôts? Ce serait intolérable. Sébastien qui nous dit, tout augmente, loyer, électricité, l'inflation, on ne s'en sort pas. Donc, monsieur le maire veut faire des économies, très bien, alors qu'il donne de l'argent à droite, à gauche. On a aussi, des petits bonjours. On a Monique qui nous dit good morning, Monique de Chamalières. Et puis, on a Bertal qui nous fait un coucou de Patpong, où il ouvre un bar.
De Patpong?
Patpong, oui. Alors, je ne sais pas, j'imagine que c'est peut-être Vietnam.
Peut-être en Asie. Bon, en tout cas, on lui passe le bonjour et merci, évidemment, de nous écouter, d'être fidèle à RMC en ce vendredi 22 mars. 5h10 sur RMC, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Comme tous les jours, on vous a préparé une petite question d'actualité à laquelle vous allez devoir répondre pour essayer de gagner un joli cadeau. D'abord la question, Géraldine.
Quelle personnalité politique, anciennement ministre de la Culture et morte hier à l'âge de 76 ans?
On en a parlé dans le journal de Romain Hougue. On en parle beaucoup évidemment depuis l'annonce de son décès hier soir. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Il y a un radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Quelle personnalité politique, un ancien ministre de la Culture. Cette personnalité est morte hier à l'âge de 76 ans. Quelle est cette personnalité? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
RMC Police Justice, comme tous les matins, vous le savez, chaque jour, le service Police Justice d'RMC vous repère une petite histoire qu'il vous raconte. Et ce matin, c'est avec Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Direction l'Hérault ce matin avec vous, Guillaume. Vous nous emmenez à Agde, plus précisément, pour nous raconter une histoire assez incroyable qui a abouti à l'incarcération du maire de la ville et de sa voyante.
Oui, c'est une affaire totalement surnaturelle pour laquelle Gilles Détor, maire d'Agde, depuis 23 ans, vient de passer sa première nuit en prison, mis en examen et écroué comme sa voyante. En garde à vue à la brigade financière, la médium a reconnu que depuis des mois, elle téléphonait régulièrement à l'élu dont elle était devenue proche et elle réussissait à lui soutirer de l'argent en trafiquant sa voix, en se faisant passer pour une créature surnaturelle. Gilles Détor, 55 ans, n'y a vu que du feu. Même en garde à vue, il a continué à soutenir qu'il avait répondu aux ordres d'une voix, une voix de l'au-delà, disait-il. Il a fallu que les policiers lui montrent une vidéo de la voyante en pleine escroquerie pour qu'il réalise la supercherie, tout en niant avoir commis un délit. Or, la voyante, elle reconnaît avoir utilisé de son influence pour faire embaucher par la mairie 5 proches, dont son compagnon, devenu directeur des services techniques quand même. Leur mariage aussi aurait été payé par des fonds détournés de la ville, tout comme la construction de leur véranda. Alors toute l'affaire avait démarré à l'automne quand l'ancienne femme du maire a dénoncé sa proximité suspecte avec la fameuse voyante, précisent nos confrères de Midi Libre. Cette médium de 44 ans est désormais en prison, tout comme Gilles Détor, figure politique locale, ex-député, qui avait commencé sa carrière, figurez-vous, comme policier au renseignement généraux.
Le récit de Guillaume Biais, le chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Les finances publiques sont dans le rouge. Faut-il augmenter les impôts? Le déficit public est en train de s'envoler, plus 5,6. Enfin, il a bondi à 5,6%. En 2023, d'après les dernières prévisions, largement supérieures aux prévisions de Bercy. Et ça inquiète évidemment le gouvernement. Le gouvernement cherche à faire des économies un peu partout. Certains députés de la majorité disent désormais vouloir briser le tabou du zéro hausse d'impôts. Une idée qui serait même soutenue par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Alors dites-nous, ce matin, est-ce qu'il faut en arriver à augmenter les impôts? Est-ce que le zéro hausse d'impôts est encore tenable? Est-ce que c'est encore souhaitable, d'ailleurs, de ne pas augmenter les impôts à l'heure où le gouvernement est en train de tailler dans le budget de tous les ministères? Où est-ce qu'on peut trouver ces économies? Où est-ce que, dans quel budget est-ce qu'il faut tailler? Venez nous dire ça au 32-16. Est-ce qu'il faut remettre en cause les baisses de taxes promises aux entreprises également? Venez nous appeler, hein, au 32-16. Appelez-nous, si vous êtes chef d'entreprise, quand on vous annonce qu'on va peut-être remettre en cause les baisses de taxes qu'on vous a promises. Comment vous réagissez? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Avant cela, c'est RMC s'engage avec vous. Solène Leroux qui vient en aide ce matin à Bérangère. Bérangère, elle vend des vêtements sur Vinted et son compte a été bloqué. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC 5h16, comme tous les matins à cette heure-là. RMC vous aide.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et ce matin, RMC s'engage avec vous, c'est avec Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Solène, ce matin, vous nous parlez de la plateforme de revente d'occasion Vinted.
Oui, Bérangère avait lancé l'alerte en décembre. Son compte professionnel était bloqué par Vinted, qui l'accusait en fait de fraude à tort. C'est son travail à plein temps. Elle vend des vêtements vintage sur le site. Elle s'est donc retrouvée sans aucune ressource du jour au lendemain. Suite à notre intervention, tout était revenu à la normale. Mais en l'entendant sur notre antenne, une vingtaine d'autres vendeurs se sont reconnus dans son témoignage. Ils nous ont écrit. Katarina, par exemple, depuis mi-décembre, elle a été bloquée 4 fois.
Il m'empêche injustement de travailler sans fraude.
fournir aucune explication pour des salariés quelque part. On a droit à recours au prud'homme ou ici, on peut rien faire. Ça veut dire que c'est mon travail, mais en fait, je peux pas faire et je sais même pas pourquoi.
Mais attendez, Solène, il n'y a pas de contrat qui les protège avec Vinted ?
Eh ben non, rien. Devenir pro est une formalité. Le vendeur envoie quelques documents sur son entreprise. Et c'est tout. Et depuis le premier blocage abusif de son compte il y a 4 mois, Katagina vit un stress épouvantable, on peut l'imaginer. À chaque fois qu'elle ouvre l'appli, elle prie pour que ça ne se reproduise plus. Angoisse partagée par bon nombre de vendeurs avec qui on a discuté. Et ça ne concerne pas seulement les blocages en jugé abusif. On nous parle aussi d'articles supprimés, de comptes masqués sans raison. Tous dénoncent en tout cas une dégradation du service. Ils ont l'impression en fait que Vinted tente de se débarrasser d'eux.
Nous virer comme ça, casser notre image aussi, parce que pour moi, c'est mon image, il a abîmé.
Et avec à la clé des revenus en moins, chaque mois, elle gagne 1 600 € sur Vinted.
C'est là que la machine RMC s'engage avec vous, se met en route. Évidemment, on vous connaît. Vous avez certainement contacté la plateforme. Qu'est-ce qu'elle vous répond ?
Pour les blocages, Vinted explique que ses équipes sont formées pour accompagner au mieux les membres. Comprendre, ils font des erreurs, ils essaient de les corriger au mieux. Et dans le cas de Katagina, Vinted s'est trompé et s'en excuse. Hein, notre auditrice nous l'a confirmé. Elle a bien récupéré son compte, je peux vous le dire. Elle est ravie.
C'est déjà pas mal.
Ouais, exactement. Vinted tient aussi à rassurer les vendeurs comme elle. Toujours les bienvenus sur notre plateforme, nous dit-on. On l'espère et surtout, on sera là, comme toujours, pour le vérifier.
Évidemment, on compte sur vous, Solène Leroux, et avec toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous pour vous contacter. On rappelle l'adresse, évidemment, pour les vendeurs Vinted et autres qui veulent vous contacter. RMC avec vous, @rmc.fr. On vous donne la parole tout de suite sur RMC.
RMC, à vous de nous dire.
Les comptes publics sont dans le rouge. Le déficit public pourrait s'envoler à 5,6% selon les dernières prévisions, bien au-delà des prévisions de Bercy. La faute au contexte international. Voilà ce que dit le gouvernement. À l'Élysée, on est en train de réfléchir, du coup, essayer de trouver des solutions, des économies. Dans la majorité, certains évoquent même la piste d'une augmentation des impôts, Géraldine.
Ah oui, sauf que c'est un tabou pour Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Mais pour certains députés, c'est la seule solution. Il faut en finir avec ce dogme qui bloque tout, selon les propos rapportés de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Plusieurs d'entre eux ont même évoqué l'idée de taxer les ultra-riches. Pas question pour le gouvernement d'aller chercher l'argent dans les poches des Français, a insisté hier un presque Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a même promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôts à destination des classes moyennes.
Est-ce que vous y croyez à ces promesses ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour sortir du rouge ? C'est la question qu'on vous pose. Ce matin, Pierre nous appelle au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour l'équipe, comment ça va ?
Salut Pierre.
Ça va et vous ?
Bonjour Géraldine.
Notre poissonnier préféré, Géraldine, justement, elle me disait tout à l'heure en antenne, elle connaît à peu près votre planning. Elle sait où vous êtes ce matin, je crois.
À Malakoff ce matin, c'est ça ?
Exact.
Sur le marché de Malakoff.
Il n'y a plus de secret.
Exactement. Pierre, on parle ce matin des impôts, du déficit public qui est dans le rouge, 5,6% d'après les dernières prévisions. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ?
Ah non, on nous prend pour des vaches à lait. Vous voyez, tout ce qu'on vit déjà, tout a augmenté. On paye le loyer, l'électricité, tout a augmenté de partout. Et on va encore nous augmenter les impôts.
Alors le gouvernement dit, continue de promettre qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. On ne l'envisage pas à ce stade-là. C'est juste qu'on va falloir trouver des solutions pour faire des économies.
Ah ouais, mais quand il dit ça, à chaque fois il change d'avis toutes les 5 minutes. Alors je sens que ça va venir sur nous.
Il faudrait prendre où sinon l'argent ?
Eh ben, l'argent qu'ils donnent à droite et à gauche, ils donnent pas mal d'argent pour... bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine, je dis pas le contraire. Mais il y a une bonne partie que bon, il peut s'occuper un peu de nous. Et à droite à gauche, ils donnent de l'argent à la Chine. J'ai appris ça il y a pas très longtemps.
C'est les aides extérieures qu'il faudrait arrêter ou les aides qu'on donne aussi, les chèques qu'on donne pour accompagner les ménages.
Les chèques qu'on donne à droite et à gauche là sur les pays. Je suis d'accord pour aider, je dis pas le contraire. Il faut aider bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine. Mais bon, il y a quand même le pays d'abord qui est en difficulté. Je vois nos entreprises, c'est pareil. Moi, je suis artisan. Je vois tout ce qu'ils payent, tout a augmenté pour eux. Ils ont des charges à droite et à gauche de plus en plus. Ça commence à devenir très difficile nos PME. Il va chercher l'argent. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. À part nous taxer nous encore.
Restez avec nous, Pierre-Alex, également nous appelle au 32-16. Bonjour Alex.
Bonjour.
Routier, Alex, vous êtes où ce matin ?
Là, je suis à Rive-de-Gier.
À Rive-de-Gier, donc dans le Rhône ?
Oui, dans le Rhône, à côté de Givors.
À côté de Givors, Alex, merci de prendre un peu de temps pour nous appeler au 32-16. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Je vous posais la même question. La situation aujourd'hui, on le voit, les comptes publics sont dans le rouge. Le gouvernement tient pour le moment à sa promesse de zéro hausse d'impôts. Mais est-ce que finalement la solution pour trouver des économies et faire des économies un peu qui aurait du sens, c'est pas d'augmenter les impôts pour éviter de taper dans les budgets des différents ministères et dans le fonctionnement de l'État?
Non, il faut pas augmenter les impôts, c'est ridicule. Déjà moi je paye déjà énormément d'impôts, donc je m'en cache pas.
Vous savez combien vous payez?
Oui, je donne 350 euros d'impôts par mois.
Et plus,
c'est
j'imagine,
retiré mon salaire.
Sur quel budget, c'est quelle proportion de votre budget?
Proportion, je paye, je crois, c'est 17 ou 18% de mon salaire par mois. Bon, ça me dérange pas de payer les impôts à condition que ça rentre dans la scolarité, dans l'éducation, dans la santé et dans la sécurité. En revanche, Pour moi, je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent un peu d'augmenter leur budget de fonctionnement de l'État. Il y a 3-4 mois, ils ont décidé d'octroyer 300 euros par mois de fonds.
Au niveau
parlementaire, je pense que c'est... on sait qu'on est en déficit, je vois pas pourquoi on augmente.
Alors vous avez raison, ça fait toujours beaucoup réagir. Après,
Par exemple, l'une des principales dépenses, c'est les retraites. Est-ce que faudrait tailler dans les aides qu'on accorde aux retraités, par exemple?
Non, les retraités, ils ont rien déjà. Ils ont rien... quand je vois, moi je transporte des personnes âgées, je suis conducteur de car, je transporte des personnes âgées, et quand on voit des personnes âgées qui font 2-3 crédits pour pouvoir voyager parce qu'ils n'ont pas les moyens ou autre, moi ça me fait mal au cœur.
Et on va aller chercher où alors ces économies? C'est quoi? Faut aller taper chercher ça chez les ultra riches
Les ultra riches, pour pouvoir ensuite les attraper, oui ou non, sachant que même si on arrive à les attraper parce qu'ils ont fait des déviations fiscales, etc., admettons qu'il y ait une entreprise qui a joué avec le fils pendant 6 ans, on va essayer de récupérer l'argent sur 3 années en arrière. Donc, du coup, il est gagnant. Il a gagné 3 années de...
Ouais, donc c'est compliqué, si je vous entends, Alex, ça va être compliqué de redresser les comptes.
Ça va être compliqué. Moi, je pense, pour redresser les comptes, je pense que les ministres et les députés devraient baisser un peu leurs impôts et puis d'arrêter de mentir sur leurs biens, etc., pour pouvoir ensuite cacher l'argent. Donc moi je pense que l'éducation se fait déjà avant sur soi et voilà.
Alex, hein, que ces augmentations d'impôts, vous n'en voulez pas. Pierre nous disait la même chose. Et vous, venez nous le dire au 32-16. Est-ce que selon vous, il faut augmenter les impôts? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alex, avec Pierre? Merci à tous les deux de nous avoir appelés ce matin au 32-16. Le débat continue toute la matinée sur RMC. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Est-ce qu'il faut lever le tabou autour du zéro hausse d'impôts, comme le souhaitent certains députés? Est-ce que vous y croyez? Venez nous le dire au 32-16. Vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant sur RMC, juste après le journal de 5h30 à 5h40, toute la bande de Charles Matin sera là. Jordan Olivier pour la Story Sport, il va nous parler du retour de Luis Enrique sur Twitch, le coach du Paris Saint-Germain. Anthony Morel sera là pour nous parler d'avenir et de cette première en Europe, un casque de réalité augmentée qui a été utilisé pour une opération chirurgicale. Mais tout de suite, Géraldine, ta solution conso.
Je vous aide à acheter frigo et lave-vaisselle, mais 2 fois moins cher.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, 5h27.
RMC,
la solution conso.
La solution conso de Géraldine Demory, comme tous les jours. Ce matin, Géraldine, tu nous expliques un petit bon plan pour acheter de l'électroménager quasiment neuf, mais 2 fois moins cher.
Et oui, et ça c'est grâce au reconditionné. Alors, faut bien faire la différence entre occasion et reconditionné. À chaque fois, on parle d'un produit qui a déjà eu une première vie, mais avec le reconditionné, il a été remis à neuf par un professionnel avant d'être vendu, et ça fait vraiment toute la différence. Et bah oui, parce que ça veut dire que le produit en fait passe par un atelier, tous ses composants sont vérifiés, changés s'il le faut, l'appareil est entièrement nettoyé. Le but, c'est que le produit reconditionné dure au moins aussi longtemps qu'un produit neuf. La seule différence, ça pourrait être l'aspect extérieur, hein, qui peut montrer quelques petits signes d'usure. Et le prix, évidemment, puisqu'en moyenne, c'est un produit qui est 30 à 60% moins cher que le neuf.
Mais c'est quand même évidemment assez intéressant et même très intéressant. Où est-ce qu'on les trouve, ces produits reconditionnés?
Et bien justement, il y a de plus en plus de magasins qui ouvrent un petit peu partout en France. Il y a des magasins spécialisés comme Underdog à Nantes. Il y a aussi Murphy qui ouvre des ateliers un petit peu partout, qui couvrent déjà la moitié du territoire, ou encore des plateformes spécialisées sur Internet comme Used. Alors là, on est plutôt sur du gros électroménager, un type machine à laver ou frigo. Par exemple, tiens, je regardais un lave-linge Whirlpool à 300 euros au lieu de 600 euros neuf. Ça vaut le coup. Et il y a aussi des enseignes plus généralistes comme Darty ou Boulanger qui proposent du reconditionné sur la plupart des produits, y compris du petit électroménager. Ça permet de s'équiper à petit prix tout en ayant la garantie d'un produit qui est en très bon état, mais ça permet aussi de se faire plaisir et d'accéder à des grandes marques qu'on ne pourrait pas s'acheter autrement.
Oui, j'imagine qu'il y a quand même des choses à surveiller quand on achète des produits reconditionnés.
Oui, alors il faut faire un petit peu attention parce que ce n'est pas quelque chose qui est très encadré. Donc il faut vraiment vérifier la fiabilité du site et regarder surtout si le service client va être facilement joignable en cas de souci. Comme pour le neuf, l'achat reconditionné doit être garanti. Généralement, c'est une garantie de 2 ans. S'il n'y a pas ça, passez votre chemin et puis choisissez un professionnel avec un atelier en France. Si vous pouvez vous déplacer en magasin, c'est encore mieux. D'ailleurs, Murphy notamment propose une visite de ses ateliers pour bien comprendre comment ça marche.
D'ailleurs, sur le reconditionnement, il y a plusieurs grades de reconditionnement sur certains appareils aussi pour fonction de l'état d'avancement, si Exactement. Je me trompe pas. Merci Exactement. Beaucoup, Géraldine. Toutes tes chroniques, évidemment, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
RMC, Charles Matin.
Le journal, c'est avec Romain Hugo. Bonjour Romain.
Bonjour Martin, bonjour à tous. 40 ans après l'affaire du petit Grégory, ses parents attendent toujours des réponses. Ils ont obtenu de la justice de nouvelles expertises ADN. Pas de hausse d'impôts, c'est une promesse d'Emmanuel Macron depuis 2017. Pourtant, face au dérapage des comptes publics, certains dans la majorité veulent les augmenter. Qu'en pensent les Français? Reportage dans ce journal. Et puis, exit la Ligue 1, Uber Eats, ce sera désormais la Ligue 1 McDonald's. La Ligue et l'enseigne de fast-food ont annoncé officiellement hier leur nouveau partenariat.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory.
Après 40 années d'enquête, le meurtre du petit garçon retrouvé asphyxié dans la Vologne en 1984 reste sans réponse. Hier, à la demande des parents du petit garçon, la cour d'appel de Dijon a ordonné de nouvelles expertises ADN, notamment celui retrouvé sur les cordelettes qui liaient le corps de l'enfant sur son anorak, mais aussi sur certains courriers du corbeau, dont celui du 16 octobre 1984, le jour de sa mort. Ces comparaisons seront effectuées avec les ADN de plusieurs personnes de la famille. La justice qui s'engage également à réaliser des analyses de cassettes audio pour tenter de définir l'identité vocale du corbeau. Gérard Welzer est l'avocat de Bernard Laroche, assassiné en 1985. Il appelle à la prudence quant à ces nouveaux développements.
Depuis le 16 octobre 1984, à intervalles réguliers, on nous a annoncé des rebondissements ou la semaine décisive. Et à chaque fois, malheureusement, il n'y a rien eu. Depuis 40 ans, à chaque fois qu'on a cru et annoncé des rebondissements, à chaque fois, malheureusement, il n'y a rien eu. Des expertises ADN, il y en a déjà eu, de fait. Il n'y a rien eu. Alors, je dis prudence. La recherche de la vérité est tout à fait légitime. Mais soyons prudents.
C'est un fait extrêmement rare. Une enseignante va comparaître prochainement devant les juges du tribunal correctionnel. Elle est accusée d'avoir participé, ou tout du moins entretenu, le harcèlement d'Evaël, 11 ans, au sein de son collège d'Herblay dans le Val d'Oise, jusqu'au suicide de la jeune fille dans sa chambre en 2019. Deux autres enfants auraient été victimes de cette prof de français. Elle devra aussi répondre de son comportement les concernant. Emma Aubecker-Granier, vous avez pu obtenir le témoignage des parents de ces victimes.
Presque 5 ans après, son fils va mieux, mais cette maman n'oublie pas les récits difficiles de son enfant alors âgé de 11 ans.
Et il me faisait part des remarques de la professeure. Tu es bête, je ne peux plus rien faire pour toi, tu es lent.
Des humiliations quotidiennes et pas réservées uniquement à son fils. Selon elle, un climat propice au harcèlement régnait dans les classes de cette enseignante.
Il y avait 3 groupes dans la classe, les chouchous, les fantômes et les têtes de turc, si je peux appeler ça comme ça, les enfants qui en prenaient plein la figure. C'est au final plusieurs enfants, plusieurs classes, à les savoir depuis quand.
Son enfant se reconstruit, mais Evaël a mis fin à ses jours quelques mois après le harcèlement subi en classe. Delphine Meillet est l'avocate de ces deux familles, soulagée que ce procès ait lieu.
C'est une satisfaction parce qu'il est rarissime de voir renvoyer un professeur pour harcèlement scolaire d'une élève. Un professeur n'est pas totalement libre de mener sa classe comme il l'entend. Le professeur doit être sensible aux sensibilités des élèves.
De son côté, l'enseignante qui depuis 2020 n'a plus le droit d'exercer réfute le harcèlement moral et promet de s'expliquer devant les juges.
Enquête ouverte par le parquet de Paris après les menaces d'attentats qui ont visé hier une cinquantaine de lycées franciliens. Les élèves ont reçu dans leur ENT, leur espace numérique de travail, un courrier menaçant d'une attaque terroriste contre leur établissement. Courrier parfois accompagné d'une vidéo de décapitation. Des menaces inadmissibles pour le Premier ministre Gabriel Attal qui a assuré que les auteurs seraient traqués. Et si le gouvernement décidait finalement d'augmenter les impôts? Emmanuel Macron a toujours promis le contraire. Même Bruno Le Maire, ministre de l'économie, balayait encore au début du mois d'un revers de main cette hypothèse. Mais les finances publiques sont dans le rouge, bien pire que prévu, avec un déficit public attendu pour 2023 à 5,6% du PIB. C'est loin des 4,9% fixés par le gouvernement. Alors, il faut trouver des économies. Et certains, dans la majorité, songent à faire voler en éclats la promesse d'Emmanuel Macron. Sébastien Krebs.
Oui, la question est dans beaucoup de conversations. Le sacro-saint dogme qui prévaut depuis 2017, zéro hausse d'impôts, est-il encore tenable? On sait que les troupes de François Bayrou proposent depuis plusieurs mois de davantage taxer les revenus du patrimoine, mais c'est maintenant au sein même des députés Renaissance que certains veulent lever les tabous. Il ne faut rien s'interdire, défend l'un d'entre eux. Question de justice, il souhaite qu'un effort soit demandé aux plus aisés. Le président du groupe, Sylvain Maillard, propose lui-même de reporter certaines baisses de taxes promises aux entreprises. Mais attention à ne pas créer un choc de défiance, réagit une députée. Le risque de changer de stratégie, c'est de perdre en attractivité, dit-elle. C'est aussi la position ferme défendue à Bercy comme à l'Élysée. L'hypothèse d'une taxation européenne pourrait être mise sur la table. Bruno Le Maire doit échanger avec les parlementaires la semaine prochaine.
Alors, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? On vous pose la question ce matin. Est-ce qu'une augmentation des impôts serait supportable pour vous? Venez nous le dire ce matin au 32-16. Vous êtes nombreux depuis tout à l'heure à nous dire que non, vous ne voulez pas d'augmentation d'impôts. Eh bien, venez nous dire où est-ce qu'il faut faire ces économies pour redresser les comptes publics. On entendait Sébastien Krebs nous dire qu'on envisageait potentiellement reporter les baisses de taxes promises aux entreprises. Est-ce que c'est une bonne idée d'après vous? Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire si oui ou non c'est une bonne idée et vous laissez vos messages également sur l'appli Direct Studio.
Ces légendaires bonsoirs vont nous manquer. L'hommage d'Emmanuel Macron à Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, est mort hier à son domicile parisien, a-t-on appris de sa famille. Il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer. Tour à tour exploitant de cinéma, animateur, producteur de télévision, réalisateur, cet ovni politique finira par être nommé ministre de la Culture de 2009 à 2012. Roselyne Bachelot, elle-même ancienne ministre de la Culture, a côtoyé dans sa carrière Frédéric Mitterrand. Elle salue celui qui était plus qu'un ancien collègue en politique.
C'était un ami, c'était un frère avec lequel j'avais des liens qui dépassaient notre parcours commun dans le gouvernement de François Fillon et se retrouvait régulièrement pour se retrouver dans cet appartement à côté de l'Assemblée nationale dans un fatras de livres, de photos et d'échanger, de se moquer aussi. On adorait ça. C'était un homme évidemment d'une culture absolument abyssale. C'est tellement, j'ai tellement de chagrin, tellement.
En football, la Ligue 1 Uber Eats, c'est fini. Place à la Ligue 1 McDonald's. La Ligue de football professionnel a annoncé hier ce nouveau partenariat. L'enseigne de restauration rapide remplacera donc Uber Eats cet été pour le naming du championnat et deviendra sponsor titre de l'élite pendant les trois prochaines saisons. Et déjà, l'accord est sujet à controverse, Loïc Braillet.
Oui, pas question de faire l'éloge du Big Mac en s'associant au foot français. C'est même tout l'inverse. Dans sa première communication, la firme américaine insiste sur son aspect populaire. McDo, c'est 1560 restaurants présents partout en France, deuxième marché dans le monde après les États-Unis. Plusieurs opérations à destination des fans de foot sont prévues. Plus de 400 clubs bénéficieront du soutien des restos McDo grâce au réseau de franchisés. La Ligue et le célèbre fast-food annoncent aussi clairement vouloir lutter contre la sédentarité et promouvoir des programmes sociétaux et environnementaux ambitieux, comme s'ils anticipaient déjà les critiques, notamment du monde politique, qui n'ont d'ailleurs pas tardé. La Ligue touche le gros lot avec cet accord, 30 millions d'euros annuels sur 3 ans, mais le plus dur commence pour McDo en termes d'image et de communication.
5h38 sur RMC et on en vient à cette histoire digne des plus grandes comédies romantiques, ou pire. C'est selon nous, sommes dans les années 2004 à Château-Thierry dans le nord de la France et c'est l'amour fou entre deux jeunes de 20 ans qui se promettent que quoi qu'il arrive 20 ans plus tard, en 2024 donc ils se retrouveraient ici à Château-Thierry. Malheureusement, ils rompent brutalement 3 ans plus tard, mais voilà, ça lui trotte dans la tête, lui veut honorer ce rendez-vous. Alors le 19 mars dernier, il prend son courage à deux mains, parcourt 500 km et se rend à Château-Thierry. C'est beau.
Non.
Mais vous me voyez venir. Et oui, les heures passent et personne ne vient. C'est ce qu'on appelle un lapin. Alors lui, ça va, il le prend plutôt bien. Il me dit, ça me fait quelque chose, dit-il, même s'il s'y attendait un peu. Pas de rancune. Il tenait simplement à honorer sa promesse sans arrière-pensée, assure-t-il, lui, qui a refait sa vie depuis. Il a même une compagne et des enfants.
Bon, c'est dur. Après, on comprend. On peut comprendre quand même que voilà, on peut oublier plusieurs années plus tard.
Ça s'oublie vite, oui, en 20 ans.
Mais c'est vrai que bon, pour le coup, ça peut être un peu dur à dur. Heureusement qu'il est heureux avec sa compagne et ses enfants, parce que sinon, on peut se dire que ça pourrait être un peu compliqué. Rien à voir, les courses promenent aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes.
Oui, et c'est à suivre en direct sur RMC Découverte à 20h15. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, le numéro 11, Aubryon Colmy, son outsider, le numéro 14, Flying Brickle.
Merci beaucoup, Romain, et ce magnifique accent. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt aux journaux. Merci beaucoup, en tout cas. Romain, et bon week-end à l'écoute d'RMC, parce que t'écoutes RMC, évidemment, tous les week-ends.
Évidemment.
5h40 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
On joue ensemble, comme tous les matins, avec l'actualité. On vous pose une question pour vous faire gagner cette question. Géraldine, quelle est-elle ce matin ?
Quelle personnalité politique anciennement ministre de la Culture est morte hier à l'âge de 76 ans ?
Romain Hougue vous en a encore parlé dans son journal il y a quelques minutes. La réponse, vous l'avez donc entendue. Si vous l'avez, vous prenez votre téléphone et vous envoyez le mot « Actu » par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Il y a un radio-réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Pour être à l'heure pour le début de Charles Matin, tous les matins. Quelle personnalité politique anciennement ministre de la Culture est morte hier à l'âge de 76 ans? Vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Et comme tous les matins, les indiscrets, les coulisses de l'actualité. Ce matin, c'est avec Pierre Borges. Bonjour Pierre.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Ce matin, Pierre, vous nous parlez de ces méga-bassines, ces retenues d'eau géantes combattues par les militants écologistes. Mais le gouvernement veut faciliter leur construction. Et ce matin, Pierre, vous nous révélez comment il compte s'y prendre.
Et ça passe d'abord par raccourcir le délai des batailles juridiques menées parfois par les opposants qui déposent des centaines de recours pour annuler ces projets de bassines. Ces batailles peuvent durer plusieurs années au minimum et faire perdre aux agriculteurs certains de leurs financements. Alors, pour réduire le temps de procédure, des mesures seraient intégrées au projet de loi d'orientation agricole selon la FNSEA, comme par exemple l'impossibilité de faire appel. La justice ne se prononce qu'une seule fois. Plus de recours possible pour un porteur de projet ou son opposant. On pourrait déjà gagner 9 à 18 mois, souffle un représentant. Et de la même manière, le gouvernement se serait bien engagé à accorder ce qu'on appelle la présomption d'urgence, qui pourrait réduire le délai du contentieux à 10 mois dans certains cas. Alors pour l'instant, ces mesures sont examinées par le Conseil d'État, mais le gouvernement entend aussi faciliter la création de ces bassines en aidant les agriculteurs à trouver les bons financements. Et l'objectif de l'État dans tout ça, eh bien, c'est de répondre aux attentes des exploitants, de plus en plus nombreux à se tourner vers des solutions de retenue d'eau, d'après France Nature Environnement. Si avant, on ne pouvait voir ce genre de chantier que dans l'ouest de la France, et bien avec le réchauffement climatique, des projets naissent dans le Gard, le Cher, les Pays de la Loire et le Puy-de-Dôme pour stocker l'eau pour l'été. C'est du passage en force qui ne va faire que renforcer les tensions, râlent les opposants, pas prêts d'arrêter de déposer des recours sur les 160 projets de bassines qu'ils ont identifiés.
Indiscret, signé Pierre Bourgès, notre correspondant dans le Sud-Ouest.
RMC, Charles Matin.
5h42 sur RMC, toute la bande de Charles Matin nous rejoint. Jordan Olivier est là pour la Story Sport. Salut Jordan.
Salut Martin, salut à toutes et à tous. On va parler ce matin de Luis Enrique, de retour sur Twitch. Il adore ce réseau social qu'il avait découvert lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne. Il est entraîneur du PSG maintenant et il est revenu hier.
On va voir ce qu'il a raconté sur Twitch. Les plateformes, tout ce qui est tech, ça intéresse Anthony Morel qui est là
également.
Évidemment. Mais tu ne vas pas nous parler de ça ce matin, salut Anthony.
Non, c'est Dr Morel ce matin.
Dr Morel,
s'il vous plaît. Oui, parce qu'on va parler de la chirurgie du futur, et vous allez voir qu'on va utiliser notamment des accessoires Apple.
Voilà. Ah.
Le Vision Pro. Vous voyez ce que c'est, Vision Pro? On va s'en servir dans les blocs opératoires.
Et tu nous expliques tout ça dans un instant. Puis on aura ton bonus, Géraldine, comme toujours.
Shakira is back avec un nouvel album, un nouveau titre qui vient tout juste de sortir il y a quelques minutes. Je vais vous le faire écouter.
On va parler de tout ça avec David également, qui nous appelle au 32-16. On sera avec lui dans un instant. Venez vous aussi réagir, venez témoigner au 32-16. On parle de toute l'actu ensemble sur RMC dans un instant.
RMC, Charles Matin.
6h moins le quart sur RMC, la bande est là. Jordan Olivier qui a passé sa journée hier sur Twitch pour écouter Luis Enrique. Docteur Morel, Anthony Morel qui va nous parler de la réalité augmentée, qui s'invite dans les blocs opératoires. Géraldine qui va nous parler de Shakira qui est de retour. Et David qui nous appelle au 32-16. Bonjour David.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Salut David.
Comment ça va ce matin David?
Ça va.
Déjà au boulot?
Tranquille, oui, depuis 4h30.
Chauffeur polo, vous êtes où là actuellement?
Là, je suis sur Nice, Nice Centre.
D'accord. Et le trajet va vous emmener où?
Je fais que du Nice Centre. Je fais de la collecte des déchets médicaux, déchets hospitaliers. Aujourd'hui, je fais que du Nice.
Très bien. David, on parle ce matin de ces comptes publics qui sont dans le rouge, un déficit public qui pourrait atteindre les 5,6%. On entend des députés, notamment de la majorité, qui évoquent la piste d'une augmentation d'impôts pour combler ce déficit. Ça serait une bonne idée plutôt que de serrer la ceinture un peu dans tous les ministères, augmenter les impôts. Ce serait une solution pour vous?
Évidemment non. Mais moi le premier truc qui me vient en tête, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Parce qu'il y a un truc auquel on s'est habitué, qu'on ne se rend pas compte. Quel que soit l'achat que vous allez faire, on va prendre l'exemple, je ne sais pas moi, une baguette de pain. Vous vous rendez compte, quand vous allez l'acheter, combien de fois elle a été taxée déjà avant?
Vous payez la TVA aussi dessus?
Ouais, et le boulanger, il paye quoi? Les ingrédients, son salarié, son loyer, tout ça. Et vous, quand vous allez l'acheter, le truc, il a été taxé au moins 8 ou 10 fois. Et ça, c'est pareil pour tout ce que vous achetez. En plus de ça, vous comptez l'inflation. Avec tout ce fric qu'ils prennent, ils n'arrivent toujours pas. Mais pour moi, c'est qu'il y a un gros problème.
C'est un problème de gestion.
Au-delà. Ben c'est au-delà du hémorragie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais de là d'augmenter les impôts, mais ça ne, à ce niveau-là, je pense que ça ne suffirait même pas.
Va quand même falloir trouver des solutions, David. On va aller chercher
Ces solutions. La solution est toute trouvée. Hein. Déjà, tous ces gouvernements-là, pour moi, c'est les 0+0, la tête à Toto. Hein. C'est les bras cassés. Hein. Et ils regardent que ce qui les arrange.
Les comptes sont bons avec David.
C'est ça.
Mais non. Mais à un moment donné, il faut. Ouais, je ne sais pas. Moi, demain, je suis archi à découvert. Je sais pas, j'ai deux fois plus de sorties d'argent que de rentrées. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez tout à plat et à un moment donné, vous regardez voilà, ce qui sort, ce qui rentre. Mais moi, je suis sûr que si on met tout à plat, il y a des choses qu'on ignore, hein, j'en suis sûr. Il y a des choses, on nous cache des choses. Hein.
Il faudrait une gestion un peu plus rigoureuse.
Mais vous vous rendez compte, mais avec tout l'argent qu'ils prennent, ils n'y arrivent toujours pas. C'est un truc de fou.
Et appelez-nous hein, si vous voulez réagir aux propos de David, si vous êtes d'accord avec lui ou pas. David, on pourrait peut-être utiliser la technologie pour remettre à tout ça. Vous utilisez beaucoup la technologie, David?
Je suis très passionné par ça. Je suis à fond dedans. Hein.
Alors ça va peut-être pas vous surprendre ce dont va nous parler Anthony Morel, docteur Morel ce matin, puisque il va nous parler de la tech comme futur de la médecine pour la première fois en Europe. Le casque Vision Pro, le casque d'Apple, a été utilisé lors d'une intervention chirurgicale. La réalité augmentée est une petite révolution à venir dans les blocs opératoires.
Ouais, une première réalisée par l'hôpital Cromwell de Londres, une opération augmentée en utilisant le Vision Pro. Alors je rappelle, hein, 4 000 € quand même l'appareil, donc je sais pas si ça va aider les comptes publics si notre système de santé commence à s'équiper de Vision Pro. Déjà que c'est un peu compliqué, si vous voulez. Vous voyez ce que c'est le Vision Pro, c'est leur dernier joujou, là. C'est une sorte de casque, ça ressemble à un masque de plongée et ça va venir en fait projeter dans votre champ de vision un certain nombre d'informations numériques. On se demandait un peu à quoi ça allait servir. Là, on a une première utilisation concrète dans le cadre d'une opération chirurgicale. C'était une intervention sur une moelle épinière, donc c'est quand même un truc assez sérieux. Et là, c'est l'infirmière en charge du matériel qui portait ce casque, qui va projeter dans son champ de vision tout un tas d'indications holographiques sur le déroulé de la procédure en temps réel, des écrans virtuels avec les constantes vitales du patient, son dossier médical, des indications aussi pour lui montrer à chaque instant quel instrument prendre, à quel moment pour le donner au chirurgien. Avec l'objectif de... exactement. En fait, ça limite les erreurs de procédure, tout simplement. On peut aussi aller plus loin. Demain, c'est les chirurgiens eux-mêmes qui porteront. Alors, peut-être pas ce casque, parce qu'il va falloir attendre que ça se miniaturise un peu, mais à terme, ça ressemblera plutôt à des lunettes, si tu veux. Et en fait, on pourra avoir quasiment un assistant de conduite quand tu es en train d'opérer. On va te montrer, là encore, en réalité augmentée, au millimètre près, quand tu arrives près d'une zone dangereuse, par exemple. Tu vois, c'est une sorte de GPS du corps humain. On va aussi s'en servir pour voir par les yeux du chirurgien. Tu t'imagines, il y a un chirurgien qui est à l'autre bout du monde, un chirurgien qui est dans le bloc opératoire avec le casque, et celui qui est à l'autre bout du monde, qui est peut-être le spécialiste mondial d'un truc hyper spécifique, il va pouvoir donner des conseils en temps réel. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios, en fait, avec ces casques qui, et c'est le gros problème, coûte encore très très cher.
Ça ne veut pas dire que n'importe qui pourra devenir médecin quand même.
Non, évidemment.
on est d'accord. Il y a une révolution potentielle aussi dans la formation des futurs médecins et des futurs chirurgiens.
Oui, absolument, parce qu'on va pouvoir se servir aussi de ces casques de réalité mixte pour créer des modèles virtuels hyper réalistes. Donc l'anatomie d'un patient spécifique, par exemple, un étudiant va pouvoir s'entraîner sur un patient virtuel, tu vas pouvoir modéliser un corps humain et puis tu vas pouvoir t'entraîner sur telle ou telle partie du corps humain. Et même pour les chirurgiens professionnels, un chirurgien imagine qu'il doit opérer sur une tumeur, voilà, sur un patient, le lendemain il doit opérer sur une tumeur, et bien on va pouvoir scanner la tumeur, en faire une modélisation 3D hyper précise, et il va pouvoir s'entraîner, répéter le geste encore et encore et encore, pour que ce soit absolument parfait au moment où il doit opérer pour de vrai.
David, vous qui êtes fan de technologie, est-ce que ça vous rassure ou ça vous fait un peu peur tout ça, la tech qui débarque dans la médecine?
Non, bah, ni l'un ni l'autre, je pense que c'est
prometteur, en tout cas, vendu comme Anthony Blouvent.
Je pense que c'est une suite logique. Hein. Après, voilà, je pense que ce sera encadré, surveillé, tout ça, je pense. Hein. Mais bon, ça ne me fait pas plus peur que ça. Non,
bon, si ça peut éviter les erreurs, tu vois, c'est pas mal.
Exactement.
Oui, oui, oui. Et puis, je pense qu'après, tout ça, ce sera connecté avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc,
absolument.
Et voilà. C'est un petit chemin qui suit son cours. Quoi.
Voilà. Ouais.
Ouais, non, c'est... Je suis sur cours, mais ça va vite quand même.
Ouais, ça va, c'est vrai que ça va assez vite. Alors, Ben, restez avec nous. On va parler de sport dans un instant, mais d'abord, vous avez entendu l'alerte. Ça veut dire que c'est le moment de vous inscrire pour jouer au coffre RMC si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros. Vous avez 5 minutes là à partir de maintenant pour prendre votre téléphone, ouvrir l'application d'envoi des SMS et envoyer le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez donc 5 minutes pour vous inscrire, pour ouvrir le coffre. Ce sera la semaine prochaine, le vendredi 29. Et peut-être donc tenter de remporter une somme exceptionnelle. 50 000 euros en jeu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Du coffre au sport, à l'ordinateur. On parle de Luis Enrique dans ta story sport. Aujourd'hui, Jordan Olivier, l'entraîneur du PSG, qui est de retour sur Twitch plus d'un an après son dernier live.
Oui, souvenez-vous, c'était lors de la Coupe du Monde au Qatar et c'était devenu une habitude d'ailleurs pour Luis Enrique. L'objectif était déjà à l'époque de se passer de certains journalistes avec qui il ne s'entendait pas très bien, pour s'adresser en fait directement à sa communauté. Twitch, on va rappeler ce que c'est, je vais me mettre dans la peau d'Anthony Morel, une petite minute, c'est une plateforme qui permet tout simplement de diffuser du contenu vidéo en direct. Les internautes peuvent aussi poser des questions.
Il a tout bon, Anthony ?
Ouais, absolument. Ouais, bon. Beaucoup de jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres types de contenus.
Comme l'utilisation faite par Luis Enrique, 25 000 personnes connectées tout de même pour suivre cette prise de parole. Le ton était détendu, l'entraîneur espagnol souriant, spontané. Pendant plus d'une heure, il répond aux questions et évoque tous les sujets. Écoutez.
À Paris, le climat est dur, froid. Ça me rappelle les Asturies, de là où je vis en Espagne. Ça a été une année dure. Je sors très peu en vélo, mais j'espère pouvoir aller au campus du PSG en vélo quand la météo sera meilleure.
La vie de Luis Enrique à Paris, qui critique en plus le climat à Paris, c'est pas très gentil. Bon, c'est intéressant, mais évidemment, c'est pas là-dessus qu'on l'attendait.
Évidemment, je vous rassure, il a quand même parlé football. Bon. Il a évoqué les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Barça, son club de cœur. Et puis, il n'a pas échappé à la question sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et là, il a très vite retrouvé ses réflexes d'entraîneur en conférence de presse.
Mbappé à Madrid ? Je ne sais rien. Il n'y a que Kylian Mbappé qui sait. Il faut simplement attendre que les parties concernées communiquent. Il faut attendre et écouter.
Ah oui. Bon, une réponse très langue de bois.
Ouais, une réponse de foot.
Effectivement, mais finalement, j'ai envie de vous dire que l'important n'était peut-être pas là hier. Ce live avait aussi pour but d'annoncer la création d'une fondation en l'honneur de sa fille Shana, décédée en 2019 d'un cancer des os à l'âge de 9 ans seulement. Fondation qui viendra en aide aux enfants malades et leurs familles.
Et c'est peut-être ça le plus important à retenir finalement de ce live Twitch. David, rapidement, oui. Alors, les entraîneurs de Ligue 1, de foot, parler sur Twitch, les footballeurs parler sur Twitch. C'est une bonne nouvelle ?
froid, j'en sais rien. Après, chacun a sa méthode. Après, on sait que Luis Enrique est un peu en froid avec les journalistes, donc c'est peut-être une manière.
Oui, c'est peut-être une manière de détourner.
Voilà, voilà, voilà. Mais j'ignorais qu'il avait eu une fille qui était décédée.
Ouais, ça avait fait un peu de bruit au moment du décès à l'époque en 2019. Elle n'a pas parlé sur Twitch, Géraldine, mais Shakira vient de sortir un nouvel album.
Est-ce que vous entendez, c'est Ultima, la chanson est sortie il y a quelques minutes là, on est les premiers à vous la faire écouter. L'album, ça faisait 7 ans que les fans l'attendaient, donc il est sorti cette nuit sur toutes les plateformes, ça s'appelle Las Mujeres Ya No Lloran, oui, espagnol LV1, les femmes ne pleurent plus, un titre loin d'être anodin parce que Shakira veut ouvrir une nouvelle ère avec cet album, passer à autre chose. Vous savez, 2 ans après sa rupture avec le footballeur Gérard Piqué, hein, ils avaient quand même passé 12 ans de vie commune, alors elle avait déjà commencé à régler ses comptes sur plusieurs chansons. Tu as troqué une Ferrari contre une Twingo, chantait-elle en début d'année. Dans une interview récemment, elle le comparait à Voldemort, le personnage terrible d'Harry Potter.
Wow.
Et donc là, elle en remet une couche avec la chanson qu'on est en train d'entendre, Ultima. Sûrement, avec le temps, tu le regretteras. Un jour, tu voudras revenir à ma porte.
Wow. Elle a du mal à s'en remettre.
Elle a du mal. Hein, voilà. En tout cas, c'est voilà, une des 16 chansons qui composent ce nouvel album de Shakira, très attendu.
L'album de Shakira qui est sorti il y a à peine une heure. Et on vous dévoile tout ce matin avec Géraldine de Maury. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci également, David, de nous avoir appelé au 32-16. Une bonne journée du côté de Nice. Nous, on se retrouve dans un instant sur RMC et sur RMC Story pour la météo et le journal à la une. Du nouveau, dans l'affaire du petit Grégory, la justice prévoit de lancer une nouvelle série d'analyse ADN. À tout de suite.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h, les infos, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la mort du petit Grégory. 40 ans après, la justice ordonne de nouvelles expertises ADN. On va vous expliquer. La mort de Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture. Hommage d'Emmanuel Macron ce matin, il avait 76 ans. Et puis la poisse pour Kevin Mayer, encore blessé cette nuit lors d'une compétition aux États-Unis. Le décathlonien n'a toujours pas décroché son ticket pour les Jeux Olympiques.
Et les mineurs achètent toujours autant de cigarettes dans les bureaux de tabac. C'est pourtant interdit, mais 80% des buralistes acceptent de leur vendre, selon la dernière étude du Comité national contre le tabac. Pour s'expliquer, le président de la Confédération des buralistes est sur RMC. C'est mon invité dans quelques minutes, juste après le journal à 6h10. Énième rebondissement dans l'affaire Grégory Quentin.
40 ans après la mort du petit garçon de 4 ans retrouvé asphyxié dans la Vologne, la cour d'appel de Dijon ordonne donc de nouvelles expertises à la demande des parents pour tenter de faire la lumière sur cette affaire avec, en fait, les progrès de la science, Marion Dubreuil.
Oui, la justice va lancer une nouvelle série d'analyses et de comparaisons ADN avec les prélèvements effectués sur les cordelettes qui entouraient le corps de Grégory, son anorak et les courriers du corbeau. Des échantillons déjà comparés aux ADN des protagonistes du dossier qui seront donc comparés aux ADN des membres de la famille élargie et notamment le frère de Jean-Marie Villemain. Enfin, autre axe d'investigation, la justice s'engage aussi à réaliser une étude de faisabilité en biométrie vocale. L'objectif est d'utiliser les progrès de la science pour analyser des cassettes audio enregistrées par les époux Villemain pour tenter de définir l'identité vocale des corbeaux. Ce n'est pas acquis compte tenu de la qualité d'enregistrement. L'avocate historique des parents de Grégory a salué la détermination de la justice pour faire toute la vérité sur la mort du petit garçon de 4 ans.
Il est 6h02, les comptes sont dans le rouge et encore plus que prévu. Le déficit public risque de s'envoler à 5,6% du PIB en 2023, selon les dernières prévisions de Bercy, avec un dérapage qui continuerait pour cette année et même la prochaine, d'où l'alerte du gouvernement avec une réunion de crise avant-hier soir à l'Élysée. 20 milliards d'euros d'économies à faire, en plus des 10 milliards déjà pour cette année. L'opposition dénonce une gestion calamiteuse et parmi les plus virulents, il y a Philippe Poutou, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste.
On nous a toujours dit qu'il fallait soutenir les entreprises, qu'il fallait subventionner, financer, exonérer les cotisations sociales, supprimer l'impôt pour les plus riches de manière à libérer pour créer de l'emploi demain. Et en fait, non, rien de ça ne se passe et c'est toujours dans le même sens. Et eux, ils continuent de la même manière. Il y a une forme de cynisme dans le discours qui est celui de dire, écoutez, on n'a pas d'argent. Alors tout le monde sait très bien qu'il y a de l'argent, tout le monde sait très bien qu'il y a des grosses fortunes, qu'il y a des profits records. Donc en fait, on voit bien qu'il y a de l'argent. Et le gouvernement fait comme s'il ne le voyait pas et d'une manière cynique et très violente.
Et on vous attend à ce sujet hein, ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC rubrique Direct Studio. Est-ce que, vu le contexte économique, il faut augmenter les impôts? C'est ce que laissent entendre certains députés, notamment certains députés de la majorité. Est-ce que le tabou autour du principe zéro hausse d'impôts est encore tenable? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est tout doucement en train de préparer les gens à des augmentations d'impôts qui vont arriver? Venez nous le dire ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
Et dans ce contexte économique, ce revers hier pour le gouvernement, comme redouté, puisque le Sénat a voté contre le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, pas ratifié par la France, mais déjà appliqué dans sa quasi-totalité au niveau européen. Alors quel avenir maintenant pour ce texte? C'est encore flou, c'est une mauvaise journée pour notre économie. Ça, c'est ce que disait hier le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Mauvaise nouvelle, c'est aussi ce que dit l'économiste Charlotte Emlinger.
On perdrait des parts de marché, on réduirait notre commerce, donc ça serait le secteur des fromages, des vins, serait perdant. Et l'autre chose qui est important à comprendre, c'est que le Canada est un gros producteur de ces produits critiques, comme le lithium. Et donc, revenir en arrière reviendrait à se priver aussi d'une source d'approvisionnement pour des produits vraiment essentiels, dans un cadre géopolitique tendu. Donc c'est vraiment, en plus, remettre en cause la sécurité économique européenne.
Il est 6h04, Emmanuel Macron rend hommage à Frédéric Mitterrand ce matin. Il a vécu 1000 existences. Voilà ce que dit le président à propos de l'ancien ministre de la Culture, passionné de cinéma, dont on a appris la mort hier à 76 ans des suites d'un cancer, Laurent Sègre.
Et son célèbre bonsoir, sur un ton traînant et nasillard, il en plaisantait dans cette émission d'Ardisson.
Bonsoir! Bonsoir!
Mais non, c'est vulgaire!
Bonsoir! Bonsoir!
Mais non, pas une petite voix de fossé, voix un peu virile quand même. Ouais.
Frédéric Mitterrand qui commence par parler cinéma sur le petit écran avec l'émission devenue culte Étoiles Étoiles. À l'époque, il dirige une petite chaîne de salles arts et essais.
Greta Garbo, telle la reine Christine de Suède, dont elle avait lu passionnément l'histoire à l'école communale à Stockholm, a déposé sa couronne.
Il lance plus tard le premier talk show culturel, Permission de minuit, puis toute une série de biographies de Brigitte Bardot à Elisabeth II, en passant par Kennedy. En 2009, après la mort de François Mitterrand, son neveu devient ministre de la Culture dans un gouvernement de droite. C'est aussi l'époque de la polémique sur son livre « La mauvaise vie ». Marine Le Pen l'accuse de tourisme sexuel sur des mineurs en Thaïlande. Le ministre, qui n'a jamais caché son homosexualité, dément et condamne publiquement la pédophilie. Frédéric Mitterrand laisse une bonne vingtaine de livres. Le dernier est une biographie de Brad Pitt, une vraie déclaration d'amour.
Le cauchemar continue, et c'est l'information de la nuit en sport. Le cauchemar continue pour Kevin Mayer, la tête d'affiche de l'athlétisme en France. Le décathlonien n'est toujours pas qualifié pour les JO. Il n'a pas encore réussi ce qu'on appelle les minima. Il espérait les réaliser aux États-Unis. Compétition cette nuit à San Diego. Mais alors Aurélien Tiersin, il a dû abandonner.
Kevin Mayer s'est encore blessé, cette fois juste avant le saut en longueur. Il est touché à la cuisse et a jeté l'éponge pendant la hauteur, quatrième épreuve de son décathlon. Un cauchemar pour le Français qui n'a pas fini une seule compétition depuis son titre mondial en juillet 2022. Son corps depuis craque en permanence. Abandon aux Mondiaux de Budapest à l'été 2023 pour un tendon d'Achille. Puis il a renoncé à concourir en Australie en décembre à cause de sa hanche. Et le voilà toujours à quai, sans billet pour Paris 2024. Le double champion du monde a jusqu'au 30 juin pour réussir les minima. Reste à savoir combien de temps sa blessure à la cuisse le tiendra éloigné des pistes. À 32 ans, Mayer a fait de Paris 2024 son dernier grand défi, lui qui n'a jamais été champion olympique.
Alors avant les Jeux Olympiques, il y aura un autre grand événement sportif. Comme chaque année, c'est le Tour de France qui partira de Florence en Italie. Fin juin, il y avait toute une cérémonie là-bas hier, puisqu'on était à J-100 du grand départ, Arnaud Souk.
Oui, et dans la romantique capitale de la Toscane, rien de moins que les fanfares médiévales florentines pour célébrer le décompte des 100 jours. Avec elles, de jeunes champions en herbe, Alessandro et Dario, notamment pressés de voir leurs idoles cet été.
J'adore le tour, j'adore le cyclisme.
La passion.
Le tour, c'est la passion du vélo. C'est trop beau de voir tout ce monde réuni. On espère que Pogacar va gagner.
Le Tour de France s'élance cet été pour la première fois d'Italie, et même ici, on s'attend à encore plus de ferveur que lors du Giro, l'équivalent de la grande boucle chez les transalpins. Daniele Benatti, ancien cycliste toscan, double vainqueur d'étape étape sur le Tour 2007.
On le sait, même le Giro sait que la plus grande course de l'année, c'est le Tour de France. Tous les coureurs veulent faire cette course, c'est la plus belle, celle qui donne la plus grande visibilité.
D'où la fierté de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, qui voulait aussi depuis longtemps célébrer les grands champions cyclistes italiens.
Florence, c'est la ville de Bartoli, seul coureur à avoir remporté le Tour à 10 années d'intervalle. On ira ensuite sur les routes de Gaston Nencini, qui a serré la main du général de Gaulle, puis on sortira par le pays de Copi.
Sans oublier celui de Pantani, vainqueur du Tour 98 et décédé dans d'obscures circonstances il y a 20 ans à Rimini, arrivé de la première étape du Tour en juin prochain.
Bon, et puis on a des nouvelles aussi des adversaires, des futurs adversaires de l'équipe de France de foot à l'Euro du mois de juin. On est dans le groupe de l'Autriche, des Pays-Bas et d'un barragiste. Eh bien, le barrage se disputera mardi prochain entre la Pologne et le Pays de Galles, qui ont respectivement battu l'Estonie et la Finlande hier soir. Donc ce sera soit la Pologne, soit le Pays de Galles.
Autriche, Pays-Bas et Pologne ou Pays de Galles.
C'est ça.
La France qui joue demain, hein, France-Allemagne. Je te demande pas si tu vas regarder demain soir. J'imagine qu'il y a un petit match de rugby qui va plus t'intéresser.
Ah ouais, moi, ce sera plus le rugby que le foot. Ça, c'est
la Rochelle qui joue. Ouais.
La Rochelle qui joue à Bayonne.
À Bayonne.
Deux fois cette semaine, j'adore.
La Rochelle qui joue à Bayonne ce week-end, quand Quentin Vinet sera devant. Peut-être que Manuel Le Chypre choisira le foot demain.
Contre l'Allemagne.
Contre l'Allemagne. Ça donne envie quand même, non?
Toujours contre l'Allemagne.
Toujours contre l'Allemagne, évidemment. On suivra ça dès 21h sur RMC. Cette rencontre donc amicale entre l'équipe de France et l'Allemagne à quelques mois de l'Euro 2024. 6h09 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue comme tous les matins ensemble, on joue avec l'actu. On vous a déniché une petite question à laquelle il faut répondre pour tenter de gagner un cadeau, Géraldine.
Quelle personnalité politique, anciennement ministre de la Culture, est morte hier à l'âge de 76 ans?
Quentin en a parlé il y a quelques minutes dans son journal, si vous avez attentif.
Vous avez un petit indice si vous nous regardez sur RMC Story.
Aussi, tout petit, ouais. Tout petit. Bon, la réponse, vous l'avez. Normalement, si tout va bien, vous prenez votre téléphone, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16 pour gagner quoi?
Un radio réveil de la marque Mus si vous êtes tiré au sort pour vous réveiller avec RMC.
Je répète la question. Quelle personnalité politique, un ancien ministre de la Culture, est morte hier à l'âge de 76 ans? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Les buralistes ne jouent pas le jeu de la lutte contre le tabac, notamment auprès des jeunes. C'est ce que dénonce la dernière étude du Comité national contre le tabac. Ils sont plus de 80% les buralistes à ne pas refuser la vente, même quand ils ont un mineur en face d'eux. Les buralistes sont accusés. Leur représentant, Philippe Coy, vient se défendre dans un instant dans Charles Matin. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonne journée, bon réveil sur RMC, il est 6h13.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Philippe Coy.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération des buralistes de France et vous êtes avec nous ce matin car votre responsabilité est pointée du doigt par le Comité national contre le tabagisme. Il vient de publier une étude qui laisse entendre que vous vendez trop facilement du tabac aux mineurs. 81% des fumeurs âgés de 17 ans disent n'avoir jamais vu un buraliste leur refuser la vente d'un paquet de cigarettes. On demande rarement l'âge, on demande encore moins souvent une pièce d'identité. Pourquoi, Philippe Coy? Est-ce que les buralistes privilégient le business à la santé publique?
Écoutez, je suis fatigué d'avoir ces sondages. D'abord, on ne connaît pas l'échantillonnage, on ne connaît pas les critères de ce sondage. Je ne vais même pas commenter ce chiffre, mais j'en ai ras-le-bol qu'aujourd'hui, ces associations qui sont subventionnées à millions de subventions publiques passent leur temps à critiquer, à piéger et jamais proposer de solutions. Pour accompagner, bien évidemment, le réseau des buralistes, nous ne sommes pas irréprochables, mais nous travaillons à la responsabilité de ce réseau et piéger, c'est trop facile aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il vous dites, on fait des choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter que les jeunes basculent dans le tabac?
Les buralistes sont des commerçants responsables. Nous sommes sensibilisés, bien évidemment, à ces enjeux. Pour le tabac, pour le jeu, pour l'alcool, pour la vape, tout cela, c'est la même réglementation. Ça ne doit pas être vendu à mineurs. La Confédération a pris ses responsabilités. Depuis deux ans maintenant, nous avons créé un module de formation en e-learning. Ça s'appelle Bob. C'est le buraliste officiellement bienveillant. Parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas irréprochables. Mais à force de vouloir nous critiquer, nous piéger, ces gens-là n'amènent jamais de solution. Ils ne parlent jamais des réseaux sociaux, des Snapchat. Ils ne parlent jamais du tabac dans la rue. Vous savez, le tabac qu'ils ont eux-mêmes amené avec leur politique irresponsable, le marché parallèle, c'est eux qui en sont à la tête aujourd'hui. Une cigarette sur trois, c'est le marché parallèle.
Mais vous dites, je ne veux pas réagir aux chiffres, reste que ces chiffres-là dépeignent aujourd'hui un échec. Cet échec, il est en partie vous êtes en partie responsable, les buralistes, mais il n'y a pas que vous, c'est ça que vous dites ce matin?
Mais écoutez, c'est toujours facile. Bien évidemment, la proie est identifiée par notre carotte. Et ces gens-là, avec leurs subventions, vont forcément chez les buralistes. Mais est-ce qu'ils le vont dans le métro? Est-ce qu'ils regardent ce qui se passe en frontière? Non. Alors oui, nous avons plutôt à travailler ensemble avec ces associations. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais régulièrement pour les 23 000 buralistes. Avec la MILDECA, la mission de lutte interministérielle, avec l'ANJ, nous faisons intervenir dans nos conférences des addictologues pour expliquer aussi pourquoi il faut être bienveillant avec ces mineurs. Et vous savez, la voie du contournement, ces mineurs, ils l'ont trouvée depuis bien longtemps avec leurs copains sur les réseaux sociaux. Alors oui, les buralistes, nous avons aujourd'hui une responsabilité, nous la portons, nous y travaillons, mais arrêtons de stigmatiser et d'opposer.
Si je vous pose la question, vous dites effectivement, ils trouvent des solutions pour les jeunes trouvent des solutions pour trouver du tabac ailleurs que dans les bureaux de tabac, mais quand on regarde les chiffres du comité contre le tabac, le premier lieu où ils achètent des cigarettes, c'est chez le buraliste. Aujourd'hui, c'est trop difficile, Philippe Coy, pour un buraliste d'appliquer la loi de ne pas vendre de tabac à un mineur.
D'abord, je voudrais pas faire une généralité. Et le chiffre de 80%, il est sur quel critère et quel échantillonnage? Une fois de plus, je le redis, c'est très facile de venir sur votre antenne, d'envoyer des communiqués à l'AFP en disant les buralistes sont les vilains canards. Mais j'invite aussi les gens du CNCT, au lieu de rester au chaud dans leur bureau, à venir dans nos établissements, à venir dans les zones sensibles, là où l'ordre républicain n'est plus respecté. Le buraliste, est-ce qu'il doit se faire défoncer la gueule, excusez-moi l'expression, parce qu'il demande une pièce d'identité?
Parce que c'est ce qui arrive,
il a le doute. Mais bien sûr, je peux vous faire des dizaines d'exemples dans le réseau où, bien évidemment, nos collègues, des fois, ont peur parce que vous avez des jeunes, et malheureusement, excusez-moi, je ne veux pas stigmatiser non plus, qui, aujourd'hui, sont agressifs. Nous vivons une situation compliquée. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous y travaillons. Mais arrêtons toujours d'opposer. L'opposition, ce n'est pas la construction.
Monsieur Coy, j'entends ce que vous dites par rapport aux jeunes qui peuvent être violents. Je vais vous donner mon exemple personnel. Alors oui, ça date de quelques années, mais personnellement, à 15 ans, j'ai fumé. On m'a jamais refusé un paquet de cigarettes. J'ai jamais, j'ai jamais été violente envers qui que ce soit. Et je peux vous dire, si on m'avait ne serait-ce que demandé ma pièce d'identité et dit non, je serais repartie un peu honteuse et peut-être que j'aurais pas fumé après pendant 10 ans, quoi.
Mais vous avez raison, il y a quelques années, c'est justement ça le sujet. Nous avons peut-être été un peu laxistes sur ce sujet. Et je peux vous assurer que le dernier congrès que nous avons tenu au mois d'octobre, avec 600 élus, 600 hommes et femmes engagés, responsables, nous avons reçu le professeur Lovenstein qui est venu expliquer ce qu'était le danger de vendre des produits à des mineurs. Alors aujourd'hui, les mineurs, il faut savoir les détecter, bien évidemment, et je ne vous fais pas la panoplie, bien évidemment, des tenues vestimentaires. Il y a aujourd'hui plus de vigilance à avoir, plus de formation, plus d'éducation de notre part. Et nous prenons notre part de responsabilité. Et je peux vous assurer que nous prenons notre responsabilité tous les jours pour que la règle soit respectée.
Philippe Coy, une dernière question. Emmanuel Macron avait fixé un objectif, une génération sans tabac pour 2030. On va y arriver ?
Écoutez, je laisse le président de la République à ses responsabilités. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le réseau est engagé, que le réseau ne vend plus que 2/3 du tabac consommé en France, que les réseaux sociaux sont un fléau, qu'aujourd'hui, bien évidemment, même pour le tabac ou les cigarettes électroniques, avec le fameux débat de la puff il y a quelques jours, vous le retrouviez ce produit dans les solderies, sur Internet. Alors toujours, toujours frapper sur les mêmes, ça devient insupportable. Nous sommes des entrepreneurs responsables et je le défendrai autant que nécessaire.
Et c'est le message qu'on retiendra ce matin. Merci beaucoup Philippe Coy d'avoir été avec nous, président de la Confédération des Buralistes. Vous dites ce matin, on n'est pas les seuls responsables du tabagisme chez les jeunes. Il faut certes plus de vigilance et de formation, mais les responsabilités sont multiples. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et RMC Story, 6h19.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso sur RMC. Manu, ce matin, tu nous parles de jeux vidéo.
De jeux vidéo que vous trouverez de moins en moins dans les petites boîtes en plastique, dans les magasins. La dématérialisation est quasiment totale, ou le sera en tout cas bientôt.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC, 6h21, Manu Le Chypre fait chauffer les manettes.
RMC, Manu Conso.
Il fait chauffer les manettes des consoles de jeux vidéo, mais Les jeux vidéo en boîte, Manu, en boîte sous plastique dans les magasins, et ben c'est bientôt fini.
Oui, on fait chauffer les manettes, mais pas les disquettes. Hein. effectivement, selon le bilan, alors pas les, non, ou les petites cartes, ouais. Comme on a maintenant. Selon le bilan annuel du syndicat français des éditeurs de logiciels de loisirs, les versions physiques des jeux vidéo ne pèsent plus que 16% du chiffre des ventes. C'est deux fois moins qu'en 2017. Et ça, c'est pour le marché français, parce qu'alors, au niveau mondial, ça ne représente même plus que 5% des revenus du marché du jeu vidéo. Et même si vous retirez les jeux sur PC et téléphone, qui par nature, évidemment, sont des jeux téléchargés, eh bien, la dématérialisation représente quand même les deux tiers de l'argent généré sur les consoles en France.
Ça veut dire qu'on n'aura plus ces petites boîtes
Non.
On va tout acheter de manière dématérialisée. On pourrait se dire que ça permettrait de faire baisser les prix des jeux vidéo, pas du tout.
Ben non, parce que quand vous regardez les nouveautés, finalement, elles sont toujours vendues au même prix, entre 60 et 80 euros, quel que soit le format, alors que quand même les coûts de fabrication sont plus bas. Et que, certes, les coûts de fabrication et de distribution des jeux vidéo sont toujours plus élevés. Et, en fait, les plateformes de vente en ligne prélèvent aussi leur pourcentage sur les transactions. Donc, ceci compense cela. Ça coûte moins cher à fabriquer, mais il y a les coûts de distribution et puis la marge des plateformes, donc, au passage.
Les jeux vidéo, et c'est maintenant, c'est des vrais films. Il y a des budgets énormes.
Exactement. Et en même temps, il faut reconnaître que les éditeurs réalisent aussi une marge nettement plus importante sur les copies numériques que sur les copies physiques. Donc la tendance va se poursuivre. D'ailleurs, dans les nouvelles consoles, vous voyez bien qu'il y a quasiment plus de support physique. Hein. Il y a même plus rien qui est prévu pour accueillir un support physique. Il y a que Nintendo qui continue à jouer le jeu, mais c'est un peu comme pour les disques vinyles. Ce marché devient un marché de collectionneurs. Et c'est même maintenant, par exemple, il y a un jeu qui est Baldur's Gate 3, qui a été élu jeu de l'année aux Game Awards. Eh bien, il n'existait qu'en téléchargement. Et on va sortir un peu une version luxe, un peu événement, en version physique, en version collector.
Collector pour les collectionneurs.
Moi, je te prends un FIFA quand tu veux, Manu.
Exactement.
Oh, pardon, j'entendais parler de vidéo, je me suis permis de rentrer.
Alors je pense qu'on joue en version dématérialisée ou qu'on joue avec la petite carte, je prendrai une tôle, quoi qu'il arrive.
C'est vrai.
Donc le résultat sera le même.
Toi qui es fan de jeux vidéo, tu vas les regretter un peu, ces boîtes qu'on peut collectionner?
Bah franchement, moi je suis pas fétichiste, donc honnêtement, je me suis fait voler ma console, petite marque Nintendo, vous voyez, avec une poignée rouge, une poignée bleue de chaque côté, qu'on peut emmener partout.
Voilà. J'ai gagné un point.
Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que quand tu te fais piquer tous tes jeux, bah tu l'as un peu mauvaise. Oui. Alors que finalement, quand tu les as en version téléchargement, bah t'as pas à les repayer, donc c'est un avantage.
Et puis il y a un peu de nostalgie. Moi, mon fils est retombé sur mes jeux de PlayStation 2 à l'époque.
Ah ouais. Moi, mon père m'a ramené une pochette de FIFA 2001 de l'époque. Alors, d'accord. Je ne sais pas servir, mais c'est vrai que petite nostalgie, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Manu. On retrouve évidemment toutes tes chroniques en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Stéphane.
Charles, comment tu vas?
Ça va et vous?
Ça va.
Tout va bien ce matin. Vous nous appelez d'où, Stéphane?
On est à Pleuvaine, dans le Finistère.
Pleuvaine, dans le Finistère, en Bretagne. Bravo déjà, Stéphane, vous avez passé la première étape du jeu d'actu, de la question d'actu. Maintenant, il faut répondre à la question. Il faut avoir la bonne réponse à la question que va vous poser Géraldine de Mory.
Quelle personnalité politique, anciennement ministre de la Culture, est morte hier à l'âge de 76 ans?
Monsieur Frédéric Mitterrand.
Exactement, bravo Stéphane. Vous repartez avec un joli cadeau?
Eh bien, vous repartez avec votre radio réveil Muse pour ne pas rater le début de Charles Matin.
Exactement.
C'est super.
Ça arrive du côté de la Bretagne. Merci beaucoup Stéphane d'avoir joué avec nous ce matin. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Merci à toute l'équipe. Vous l'avez déjà entendu, Stéphane. Charles Magnin est là, prêt à jouer à FIFA. Mais avant de jouer à FIFA, il a une petite émission à faire.
Oui, c'est moins ludique. On va poser la question qui fait mal ce matin. Géraldine, Manu Le Chypre, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Je sais que rien que la poser, c'est douloureux pour certains, mais elle se pose clairement ce matin parce que l'année dernière, il faut le dire, on a vécu bien au-dessus de nos moyens. Enfin, l'État a vécu bien au-dessus de ses moyens. Déficit abyssal. Oui, c'est un peu nous aussi, au passage. Alors, pour y faire face, on sait déjà qu'on cherche à faire des économies. On parle de 10 milliards en 2024, 20 milliards en 2025. Mais certains, y compris au sein de la majorité, plaident désormais pour des augmentations d'impôts. C'était pourtant un vrai tabou depuis 2017 pour Emmanuel Macron, pour Bruno Le Maire. Alors, on vous pose la question ce matin directement. Vous allez nous dire au 32-16, est-ce qu'il faut lever le tabou? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Et puis, quels impôts? Certains parlent de taxer davantage les grandes entreprises, le 440, les grandes fortunes. Je vois déjà Manu qui fait nom de la tête. Bah tiens, vous allez pouvoir en débattre avec Manu Le Chypre juste après le journal de 6h30. C'est à vous de nous dire, ça se passe au 32-16. Et puis, tiens, soyez attentifs, c'est le retour du coffre RMC. Il y a 50 000 euros à gagner. Ah, peut-être que Bruno Le Maire va jouer pour réduire les déficits. 50 000 euros à gagner. Pour ça, il faudra vous inscrire lorsque l'alerte va retentir ce matin. À ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre par SMS au 732-16. L'alerte va tomber avant 8h30. Donc, soyez bien attentifs. Dans Apolline Matin, le programme est très riche. Ça se passe avec vous au 32-16, avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est la météo avec Géraldine, le journal avec Élise Dangean. Excellent réveil à tous sur RMC.